Il est 9h29 minutes. Lundi prochain se tient à Montréal Montréal Connect, la semaine de l'intelligence numérique qui est organisée par le Printemps numérique. Ça va se tenir au CHUM. On va y aborder, bien sûr, la santé. Le CHUM, le nom le dit avec le CHUM. Mais la santé de demain, parce que le CHUM mise beaucoup sur l'intelligence artificielle. Avec nous en studio, le docteur Fabrice Brunet, qui est président directeur général du Centre hospitalier universitaire de Montréal. Bonjour, bienvenue chez nous.
Bonjour, Monsieur Lacroix.
Ça fait un an et demi, là, à peu près, que le nouveau CHUM est ouvert.
Tout à fait.
Ça se passe comment?
Ça se passe de mieux en mieux, ouais. Comme on avait prévu. Il a fallu monter un petit peu progressivement notre activité,
ouais.
Parce qu'il y avait beaucoup de nouvelles technologies, des nouveaux espaces. Il a fallu s'approprier l'ensemble de ce nouveau bâtiment.
Mm-hmm.
Et là, ça va de mieux en mieux. Et puis, je pense qu'aussi bien sur les soins, sur l'enseignement, sur la recherche et leur intégration dans ce nouveau campus,
ouais.
Ça se passe très bien maintenant.
Bon, essayez de nous illustrer à quoi sert l'intelligence artificielle dans un hôpital. Il me semble que d'entrée de jeu, on n'a pas tendance à penser que ça puisse avoir une grande importance.
Alors, la première chose, je dois vous dire, on a été surpris par l'influence et l'importance de l'intelligence artificielle dans notre hôpital,
ouais.
Parce qu'elle est présente dans différents éléments, que ce soit bien sûr les machines comme la radiologie, l'IRM, les scanners, mais aussi dans la reconnaissance faciale pour les images. Il y a aussi dans la gestion des stocks, la gestion des finances. Il y a de nombreux éléments qui maintenant sont soutenus, on pourrait dire, par intelligence artificielle de façon à améliorer notre performance.
Ouais.
Et puis également dans la télésanté, où avec les objets connectés et l'intelligence artificielle, on peut améliorer l'accès, on peut améliorer la coordination du réseau, le transfert de connaissances, et tout ça contribue à ce que, avec la ministre et puis avec le ministère, nous sommes en train de faire, c'est-à-dire de mieux coordonner le réseau pour mieux servir la population.
Bon, là, vous parlez d'objets connectés. Moi, j'ai une montre, là, j'ai une Apple Watch, là. Est-ce que ça...
Bravo!
En avez-vous une, vous-même?
Non, pas.
Non, pas du tout, OK, d'accord. Mais est-ce que ça, ce sont des outils qui peuvent être utilisés dans, les outils de diagnostic que vous pouvez avoir? Parce que ça enregistre tout, là, de ce qu'on fait, les battements cardiaques, le rythme cardiaque, etc. Est-ce que ça peut être des outils dont les médecins peuvent se servir? Par exemple, si je devais me rendre à l'hôpital pour une raison X, est-ce qu'ils pourraient utiliser les données stockées par ma montre pour faire un diagnostic?
Tout à fait. Mais en fait, quand on dit objet connecté, ça dépend à quoi et à qui vous êtes connecté.
Ouais.
Si, par exemple, vous êtes connecté à notre hub de télésanté,
mm-hmm.
où il y a, par exemple, des cardiologues, et que vous parliez de votre électrocardiogramme, on pourrait effectivement recueillir les informations, comme on le fait, par exemple, avec un pacemaker,
ouais.
qui est implanté dans votre corps et qui a la possibilité d'avoir des données sur votre rythme cardiaque, des anomalies que vous feriez, etc. Mais parfois, vous êtes connecté à vous-même, puis c'est de l'auto-évaluation de votre santé,
mm-hmm.
ou vous êtes connecté à des géants du numérique, auquel cas, là, ce sont des données qu'il va falloir qu'on aille récupérer,
ouais.
avec votre autorisation pour pouvoir faire un meilleur diagnostic.
Mais ces outils-là, là, comme une montre qu'on peut acheter dans le commerce normal, c'est suffisamment fiable, les capteurs qu'il y a là-dessus, pour que ça puisse être utilisé en médecine?
Ben, ça dépend de ce que vous voulez faire comme diagnostic. Si c'est un diagnostic simplement d'un rythme irrégulier,
ouais.
oui. Si vous voulez faire un diagnostic plus fin du type de rythme irrégulier, de ce que ça a pu entraîner, etc., là, ça n'est pas le cas. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, des pacemakers implantables ou d'autres moyens d'enregistrer des signaux de façon plus scientifique, ouais. et de qualité meilleure sont nécessaires.
OK. Et pourquoi vous semblez vous-même avoir un intérêt particulier pour l'intelligence artificielle, n'est-ce pas?
Ben, c'est-à-dire que j'ai
l'impression que ça vous intéresse vous-même beaucoup, là, parce que vous voyez des possibilités assez importantes de ça.
Il y a énormément de possibilités et mon intérêt est dû au fait que c'est arrivé sans que vraiment on s'en rende compte.
Ouais.
C'est présent un peu partout et qu'il faut l'accompagner, il faut se l'approprier et il faut l'utiliser pour le bien de l'être humain, que ce soit le patient dans une vision de médecine personnalisée, que ce soit de citoyens dans une vision de santé personnalisée, mais également pour nos équipes de professionnels, pour pas qu'ils soient inquiets par rapport au risque de transformation de leur profession, ou même ce qu'on a à un moment dit de remplacement, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, mais il faut que nous nous intéressions, nous en tant que dirigeants, pour que l'intelligence artificielle soit utilisée pour le bénéfice de l'être humain.
Donc, chez vous, il y a un comité ou il y a une équipe, en fait, qui travaille à développer l'intelligence artificielle, n'est-ce pas?
Tout à fait. Il y a une équipe qui est dédiée à ça. Ça se fait aussi dans le cadre de toutes les innovations en général. On le fait avec l'école de l'intelligence artificielle en santé que nous avons créée au CHUM avec l'Université de Montréal et aussi avec le ministère, notamment avec le bureau des innovations qui nous permet de bien identifier quels sont les besoins, comment adapter la réponse et comment ensuite l'implanter pour le bénéfice et du système de santé d'un côté et de la population de l'autre, incluant l'ensemble des intervenants, que ce soit dans les établissements, dans le réseau ou même à domicile, puisque l'intelligence artificielle permet maintenant d'avoir des aménagements adaptés aux besoins du patient, par exemple de la personne âgée ou d'une personne ayant un handicap, qu'il soit physique ou mental, et permettant ainsi de faire en sorte que son environnement soit bienveillant.
Ouais. On sait que Montréal est probablement la mecque de l'intelligence artificielle en ce moment, là, dans le développement de la technologie de l'intelligence artificielle. Où se situe le CHUM par rapport à ces développements-là? Est-ce que, par exemple, les grandes universités qui ne font pas nécessairement de la santé, mais qui développent l'intelligence artificielle, ont recours à votre expertise ou vous proposent des choses?
Mais écoutez, je pense que c'est bilatéral, dans le sens où nous, le CHUM, ne développons pas d'intelligence artificielle, mais nous utilisons ce que les chercheurs, les universitaires, en particulier, bien sûr, Ivado, Mila, qui sont au niveau de l'Université de Montréal, nos partenaires, ainsi que Imagia, par exemple, qui travaille aussi avec nous, ou Element AI, vont nous permettre ensuite de répondre à nos besoins. Mais d'un autre côté, nous pouvons exprimer des besoins qui peuvent guider les chercheurs vers des solutions qui soient appropriées. Donc en fait, notre objectif, c'est réellement de trouver des formes d'intelligence artificielle adaptées à nos besoins pour le bien de la population. Pas de créer de l'intelligence artificielle.
C'est de l'appliquer, en fait.
C'est de l'appliquer, mais de l'appliquer à bon escient et pour le bien des patients et de la population.
Bon, donnez-nous des exemples d'applications. On parle beaucoup de télémédecine. Moi, il me semble que ça fait des années, là. Je me souviens, à l'époque, on voyait des caméras là, qui étaient installées dans une salle d'opération à Genève. Et puis, là, à Montréal, on pouvait suivre l'opération puis conseiller. Est-ce que ça, c'est une forme, primitive ou préhistorique de l'intelligence artificielle, ça se fait toujours, ces espèces d'applications là, à distance de la médecine?
Mais c'est-à-dire qu'il y a les technologies, qui sont des technologies nous permettant de travailler à distance, soit pour faire une consultation, soit pour enseigner à distance, soit même de la télérobotique, par exemple, pour faire de la chirurgie à distance. L'intelligence artificielle amène une autre dimension dans le sens où elle amplifie les possibilités. Et en même temps, elle va permettre de multiplier les sources d'informations pour qu'on puisse prendre en charge un patient à distance avec plus d'informations que ce qu'on faisait. Parce que le téléphone, le télégraphe, etc., c'était déjà de la télémédecine. Aujourd'hui, on a, avec ce qu'on appelle la santé mobile, toutes les applications qui nous permettent de suivre le patient ou le citoyen pour l'accompagner dans la prise en charge de sa maladie ou de sa santé. On a des nouvelles technologies issues de l'IA qui amplifient nos capacités.
Alors, ça s'applique comment? Si, par exemple, est-ce qu'il y a des équipes médicales installées un peu partout au Québec qui ont recours aux services de médecins qui travaillent au CHUM dans vos équipes pour des cas, par exemple, qui peuvent dépasser leurs compétences ou leurs connaissances?
Tout à fait. On a des médecins ou des professionnels de santé, en particulier les IPS. Vous savez que les infirmières praticiennes spécialisées, c'est un avenir qui est maintenant devenu un présent. Donc, ça nous permet de soutenir à distance avec une expertise qu'on développe avec eux, les médecins et les infirmières, et avec nos spécialistes pour enrichir nos bases de données. Et puis, on a des programmes qui nous permettent de faire de l'assistance par télésanté utilisant l'intelligence artificielle pour faire en sorte que l'accès des patients à des soins de différents niveaux soit renforcé et on n'ait pas besoin toujours de venir jusque dans les centres hospitaliers universitaires.
Vous avez prononcé deux mots tout à l'heure que j'ai pris en note dès le début de notre entretien. Vous avez parlé de reconnaissance faciale.
Oui.
il y a tout un débat en ce moment sur devrait-on ou non utiliser la reconnaissance faciale. Ça sous-tend toutes les questions de droit, par exemple, sur nos données personnelles et tout ça. Est-ce qu'il y a un souci de ça chez vous, justement, une limite à ne pas franchir, finalement, en termes de préservation des données personnelles?
Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un des sujets, dans le cadre du printemps numérique, que nous allons avoir. Il y a 5 jours, le CHUM ne s'occupe que de la première journée sur la santé. Les autres journées sont sur d'autres éléments, l'intelligence artificielle pure, la mobilité, l'architecture, et je ne me souviens plus du dernier. Mais donc, globalement, nous allons avoir une conférence qui va être donnée par Anne Kavoukian sur les droits de la vie privée, les bases de données, la cybersécurité, etc., qui vont être aussi abordées pendant cette journée-là, puisque les données doivent respecter, enfin, l'utilisation de ces données doivent respecter la vie privée, la confidentialité, et pas être utilisées dans des fins qui seraient néfastes pour la personne. Sur la reconnaissance visuelle ou faciale, il y a 2 éléments. Il y a celles qui sont liées à la reconnaissance de masse que vous avez un peu partout. Et là, je pense que toutes les expériences sont à prendre avec extrêmement de précaution. Mais vous avez parfois, comme par exemple chez nous, la possibilité pour un patient épileptique d'avoir avec reconnaissance faciale la détection d'une crise ou d'une pré-crise avant même qu'elle arrive, et ce, dans une vision d'accompagnement thérapeutique, à la fois diagnostique et préventif. Ouais. Donc vous voyez, ça, c'est comme toujours, ça dépend de l'utilisation. Si vous voulez en faire quelque chose pour contrôler les gens ou pour détecter des comportements qui pourraient être utilisés avec des fins peut-être moins bien intentionnées, ben c'est moins utile que si vous le faites pour détecter des maladies.
Donc, il n'y a pas question d'arriver au CHUM, d'entrer au CHUM et puis que vous sachiez dans votre bureau « Ah tiens, Louis Lacroix vient d'arriver au CHUM parce qu'on a reconnu son visage. » Non, c'est pas question de se rendre jusque-là.
En fait, je saurais que vous êtes venu parce que mon équipe de communication m'aura dit « Il est en train d'arriver, mais pas par reconnaissance faciale, ne vous inquiétez pas.
» Alors, ça commence lundi prochain, c'est bien ça?
Ça commence lundi prochain, donc c'est tout la semaine et normalement la mairesse sera là pour lancer la semaine au CHUM en sachant, je vous rappelle, qu'il y a d'autres lieux que le CHUM. Le CHUM n'étant que la première journée.
Est-ce que c'est ouvert à tous?
C'est ouvert à tous, mais il faut s'inscrire. Ouais. Et pour ça, il faut aller sur le site printempsnumérique.ca. Parce que ce n'est pas le CHUM qui fait les inscriptions, c'est Printemps numérique.
J'imagine qu'il doit aussi y avoir une question de disponibilité de place quand même si c'est ouvert à tous.
Oui, c'est ça, c'est ouvert à tous, mais il faut quand même s'inscrire parce que nos amphithéâtres ne sont pas illimités.
Ouais. Vous avez un accent français?
Ah bon?
Oui. Ou c'est nous qui avons un accent, ça dépend.
Tout le monde a un accent dans la vie,
exactement.
Tout le monde.
Qu'est-ce qui vous a attiré au Québec?
En fait, le Canada et le Québec m'ont attiré pour...
Vous avez pratiqué à Toronto aussi.
J'ai été 7 ans à Toronto, j'ai beaucoup apprécié également. Le Québec, ce qui m'a attiré, c'est la créativité, le sens de l'innovation de la population, et puis le fait que le système de santé était en pleine réorganisation. Vous me direz, c'est partout pareil.
Ouais.
Mais là, à l'époque, quand je suis venu, c'est parce qu'il y avait une vision globale d'intégration de la santé, intégrant aussi le social, le communautaire, et donc une vision qui était assez unique dans le monde par rapport à d'autres endroits. Comme je m'intéresse à la recherche dans l'optimisation des systèmes de santé, le Québec m'a attiré pour ça.
Alors, on fait souvent la comparaison entre le système de santé au Québec et puis en France. Vous qui connaissez les deux?
Écoutez, aucun des deux n'est idéal. Tous les deux sont en transformation. Le 5 juin, on a une rencontre avec les hospices de Lyon qui viennent avec tout aussi l'environnement politique et économique, travailler avec nous au CHUM pour définir quel serait le meilleur système de santé. À mon avis, on a encore pour des décennies avant de le trouver, mais c'est l'objet de travail constant. Et puis, je vous dis encore une fois, avec la ministre, le ministère et puis l'université, on travaille énormément pour trouver des nouvelles solutions.
M. Brunet, merci d'être passé chez nous.
Merci beaucoup.
Au revoir, le docteur. Fabrice Brunet est président directeur général du CHUM.